Alors, nous continuons notre série sur l'exploration de la Bible, Béréen l'explorateur. Et on s'était arrêté sur Genèse 13. Donc, quand Abraham se sépare de Lot, et Lot, il demande à Lot de choisir le terrain qui lui plaît. Et Lot regarde, il prend le beau terrain, il prend la belle plaine verdoyante. Et plus tard, il est écrit, Dieu a fait lever les yeux d'Abraham. Donc c'est Dieu, lui, qui montre à Abraham l'endroit qu'il doit prendre. Donc ce n'est pas Abraham qui choisit lui-même, mais il se laisse conduire par Dieu pour prendre ce que Dieu lui propose. Et on avait expliqué la différence. Lot représentait l'homme qui veut maîtriser, qui veut contrôler, qui veut gérer sa vie, alors qu'Abraham représente l'enfant de Dieu qui laisse son père, Dieu l'Éternel, qui connaît tout, le passé, l'avenir, le présent, les capacités, les réalités cachées. Il laisse Dieu le conduire. Ainsi, même si ses yeux voient l'avenir en noir, il a confiance, comme David dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, parce que toi tu es à mes côtés. Donc c'est ça l'enfant de Dieu. C'est le fait que Dieu soit avec lui qui compte, ce n'est pas les circonstances, ni les événements, ni les biens matériels. Donc, on avait souligné ainsi la foi d'Abraham qui non seulement avait quitté sa patrie par obéissance à Dieu, mais continuait encore à obéir, à se laisser conduire par Dieu dans sa vie de tous les jours. Et nous continuons au chapitre 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Voilà l'histoire de Melchisédek. Donc, Abraham vient de remporter une bataille, une guerre, et voilà que un certain Melchisédek, roi de Salem, sachant que Sédek, ça veut dire justice, et Melchis, ça veut dire roi, bon, en hébreu aujourd'hui c'est Melark, mais c'est la même racine, ça veut dire roi de justice, Melchisédek, ça veut dire roi de justice, et il était roi de Salem, ça veut dire paix. Donc Jérusalem, ça veut dire ville de paix. Donc Salem, ça veut dire paix. Donc Melchisédek, roi de justice, par son titre, par son nom, il est roi de Salem, donc roi d'un endroit appelé Salem, qui veut dire paix, fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et sacrificateur, ça veut dire une personne qui est intermédiaire entre les hommes et Dieu, qui sert de contact quand les hommes veulent parler à Dieu, veulent adorer Dieu, veulent faire des choses avec Dieu. C'est le sacrificateur qu'ils voient pour permettre ce contact-là avec Dieu. Et on nous dit que Abraham, donc Melchisédek, fait apporter le pain et le vin. Donc certainement, c'était dans le but de faire des prières, parce que pourquoi on signalerait ça? Donc on signale ça dans le sens de prière, dans le sens de ces deux éléments-là étaient importants pour ce contact-là. Et il est dit que c'est lui qui bénit, il a béni Abraham. Et Abraham lui fait une sorte d'offrande, il donne la dîme, donc le dixième de tout ce qu'il avait gagné, il donne ça à Dieu à travers Melchisédek. Et si nous citons cette histoire, c'est que ce Melchisédek dont on est en train de parler, on ne nous dit pas d'où il vient, ni comment il finit. Donc son histoire se limite là. Donc il apparaît et il bénit Abraham. Et notre frère Paul, dans les épîtres, dans l'épître d'Hébreu, il nous explique que ce Melchisédek était une présence de Jésus avant le temps. Il a le caractère de Jésus parce qu'il y a un psaume qui en parle aussi, le psaume 110. Donc, dans le psaume 110, il est dit ceci. Psaume 110. Donc, pourquoi c'est important? C'est important pour un juif de connaître ce que nous sommes en train de lire pour comprendre qui est Jésus. Psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc c'est un psaume compliqué pour beaucoup de juifs parce que l'Éternel parle à son Seigneur, à un Seigneur. Or, il n'y a que Dieu qui avait le titre de Seigneur. Vraiment comme titre spécial avec un S majuscule. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Verset 4, c'est le verset qui nous intéresse. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc le psaume 110 parle d'un Seigneur que Dieu nomme sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et donc, dans l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul, notamment au chapitre 7, il fait une démonstration extraordinaire qui nous fait comprendre que, en réalité, Melchisédek, c'est l'image de Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas été sacrificateur descendant de Aaron, parce que vous savez que c'était les sacrificateurs étaient des descendants du frère de Moïse, Aaron. C'était eux les sacrificateurs, et eux-mêmes étant de la tribu de Lévi. Mais Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi. Jésus vient de la tribu de Judas. Mais Dieu le consacre sacrificateur à la manière de Melchisédek. Donc, c'est-à-dire un sacrificateur qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas de fin de jour. C'est ça l'importance de ce texte. Dans ce texte, on voit Melchisédek qui est présenté, et puis c'est tout. On ne nous dit pas d'où il vient et comment il finit. Et ensuite, dans le psaume 110, on nous dit que quelqu'un va être nommé sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, on n'a pas dit non selon l'ordre d'Aaron, mais on dit tout simplement il va être nommé sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Sous-entendu, ce n'est pas selon la logique d'Aaron. Alors, dans le psaume 110, c'est dit « sacrificateur à toujours ». Or, les sacrificateurs d'autrefois, donc les prêtres du temple, les descendants d'Aaron, c'était des sacrificateurs pas à toujours, parce que c'était des hommes qui mouraient un jour. Et quand ils mouraient, on choisissait d'autres personnes à leur place. Donc c'était des sacrificateurs temporaires. Mais là, il est dit que je te nomme sacrificateur à toujours. Donc c'est un être, il s'agit d'un être éternel. Donc ce passage-là est capital pour la foi chrétienne. Ça montre que depuis l'Ancien Testament, Dieu a déjà prévu la venue de Jésus. Il a donné des pistes. Et Melchisédek est une grande piste parce qu'il fait apporter le pain et le vin pour faire le travail. On se souvient, le Seigneur, avant de partir, il a fait une cérémonie avec le pain et le vin. Donc il est ce qu'on appelle la préfiguration de Jésus. Donc Jésus avant le temps, donc Melchisédek. Et c'est important, et l'apôtre Paul nous explique dans Hébreux que puisque Abraham a considéré Melchisédek comme son intermédiaire avec Dieu, ça veut dire que Melchisédek était au-dessus d'Abraham, puisque c'est Melchisédek qui bénit Abraham. C'est le supérieur qui bénit l'autre. Et donc, puisque Abraham s'est prosterné, a reconnu le fait que Melchisédek soit son sacrificateur, et que Abraham est le grand-père d'Aaron, donc le grand-père de Lévi, et d'Aaron, finalement, donc le père de tous les autres sacrificateurs, le grand-père de tous les sacrificateurs, Abraham lui-même s'incline devant Melchisédek, alors l'ordre d'Aaron est inférieur à l'ordre de Jésus. L'ordre d'Aaron est soumis à l'ordre de Jésus. Voilà la démonstration de Paul. Vous savez, l'épître, c'est l'épître aux Hébreux. Donc, dans cette épître, on essaie de montrer aux Hébreux que ce qui se faisait en leur temps était l'ombre des choses à venir et que la perfection venait avec Jésus. C'est ça le travail de l'épître aux Hébreux. Donc on leur expliquait que tout ce qu'ils faisaient comme cérémonie avant n'était que l'image des vraies choses que Jésus-Christ allait lui-même venir exécuter. Donc c'est pourquoi Paul dit, l'une des preuves, c'est Melchisédek. Il cite les Écritures juives. Donc Paul, à l'époque de Paul, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il n'y avait que les Écritures juives. Donc, ils citent leurs Écritures pour dire, voilà, dans Genèse, il est dit qu'Abraham a été béni par Melchisédek. Donc, ça veut dire qu'Abraham a reconnu la supériorité de Melchisédek. Et dans le psaume 110, on parle d'un monsieur, d'un seigneur que Dieu va, on l'appelle même seigneur avec majuscule. Donc, cet homme-là, Dieu le couronne sacrificateur, le proclame sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, donc sans commencement de jour, sans fin de jour. Donc c'est un sacrificateur éternel. Je crois que les gens comme Paul devaient être autrefois troublés par ce genre de texte, le texte de Genèse et le texte de 110. Comment expliquer tout ça? Vous savez, il y a un moment où les Juifs embêtaient le Seigneur Jésus. Jésus leur a donné un des passages qu'on entendait, le psaume 110 et le psaume 45. Dans le psaume 45, il est dit, « Ton Dieu, ô Dieu, t'a oint. » Donc Dieu a oint Dieu lui-même. Et Jésus leur pose la question, « C'est qui maintenant ?» Et ils étaient bloqués. Donc, il y avait, je crois que des gens comme Paul, ces passages, quand il n'était pas encore chrétien, devaient le troubler pour dire, mais c'est qui cet homme qui va être ou un sacrificateur selon un autre ordre, pas l'ordre qu'on connaît habituellement. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que c'était Jésus, clairement, de lui, dont on parlait dans Psaume 110. D'où l'importance de cette partie sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est la préfiguration, donc sacrificateur à jamais. Et dans Michée 5, voilà le terme qu'on a utilisé dans Psaume 110 et dans Hébreu, c'est sacrificateur à toujours. Dans Hébreu, c'est n'a pas de commencement de jour ni de fin de jour. On voit les mêmes termes dans Michée 5 quand on prophétise que le Messie va naître à Bethléem. Donc dans Michée 5, qui fait partie des Écritures juives, il est dit que de toi, Bethléem, naîtra celui qui n'a pas de commencement de jour. Donc c'est celui qui, dont l'origine remonte au jour d'éternité. Donc on voit que toutes les pistes concernant la réalité du Seigneur Jésus sont dans l'Ancien Testament. Et Genèse, donc ce qu'on vient de lire, 14, et en est une démonstration, une fois de plus, l'histoire concernant Melchisédek. Lorsqu'on colle ça, lorsqu'on fait rejoindre Psaume 110 à ça, ça devient une démonstration claire de qui est Jésus, de comment Dieu a prévu déjà sa présence depuis le Premier Testament. Voilà, nous continuons, nous arrivons au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Un passage hyper important. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Ce passage est aussi utilisé par celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Moi, je pense que c'est Paul. C'est utilisé pour nous montrer comment la foi en Dieu est source de salut. Parce que vous savez que Abraham a donné naissance à Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob, Jacob a donné naissance à 12 fils, ça a fait les 12 tribus d'Israël, et dans ces tribus-là, il y a eu Lévi qui a donné, il y a Moïse qui est venu par Lévi, et Moïse a amené la loi. Et la loi fixait les conditions de salut. Donc il fallait pratiquer la loi pour être sauvé. Donc c'est ce que les enfants d'Israël ont connu pendant leur longue existence avant que Jésus vienne. Ils marchaient selon la loi. Et pourtant, dans Genèse 15, donc avant la loi, donc dès Abraham, il est dit que Abraham a été reconnu juste. Donc quand on dit c'est lui qui le lui imputa à justice. Donc Dieu a mis ça dans le compte d'Abraham. Le fait qu'il croit en lui, ça a fait que Dieu le considère comme juste. Donc ce n'est pas à cause de la loi, parce que la loi n'existait pas encore. Donc c'est ce que notre frère Paul utilise pour expliquer que dès les anciens temps, avant même la loi, Dieu a déjà prévu qu'on soit sauvé par la foi, parce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 15. J'ai l'habitude de dire que toute la Bible se trouve dans Genèse. Dans Genèse, on trouve tout ce qui concerne toute la Bible. Et donc, même là encore, on voit le salut par la foi, c'est quelque chose par lequel Dieu avait commencé. Il n'avait pas commencé par le salut par la loi. Mais il a fallu, ce que Paul explique, que la loi vienne pour mettre un certain ordre et pousser, créer la soif du Sauveur, parce que la loi disait il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, afin de limiter les bêtises qui se faisaient sur la terre et afin de montrer à l'homme qu'il est mauvais et pécheur pour créer en lui la soif d'un sauveur, parce que de lui-même, en cherchant à être en ordre avec la loi, il allait échouer, ayant une mauvaise nature. Alors il allait avoir besoin de crier pour que Dieu lui envoie un sauveur qui le sauve. C'est ça le but de la loi. Créer la soif d'un sauveur en montrant la déchéance humaine. Mais les gens ont mal compris, ils ont voulu se cantonner sur la loi. Et notre frère Paul nous explique dans le livre des Hébreux, mais non, et dans les livres de Galates, Romains, dans plusieurs livres, il explique que dès Genèse, Abraham a été reconnu juste par sa foi. Donc c'est un passage aussi capital pour tous ceux qui veulent par les Écritures amener, par exemple, un juif à comprendre c'est quoi la grâce, c'est quoi la foi, lui montrer que ça figurait déjà, même avant la loi. Et là, nous le voyons une fois de plus, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc Dieu a considéré Abraham juste à cause de sa foi en lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul va loin. Il dit, mais est-ce qu'on peut dire selon la loi ou selon la nature divine qu'Abraham fut quelqu'un de bon? Paul dit, mais non, puisqu'on a vu ce qui s'est passé avec Agar, on a vu ce qui s'est passé, il a eu à prendre encore une autre femme, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il a eu foi en Dieu que Dieu a imputé cela à justice. Et c'est ça le principe du salut par la foi. Abraham en est une démonstration et on sait combien on l'appelle le père de la foi. Et nous continuons, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Voilà, donc c'est bien comme on a dit, c'est de l'exploration, parce que la plupart d'entre nous savons que les enfants d'Israël ont mis environ 400 ans en Égypte. La plupart d'entre nous savons que lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Donc Dieu a convaincu les Égyptiens de leur donner beaucoup de richesses. Donc la plupart d'entre nous, nous savons qu'ils sont sortis de quoi? Ils sont sortis d'une terre étrangère, donc pendant 400 ans. Et ça a été prophétisé à Abraham. Il faut comprendre qu'il y a Abraham, ensuite il y a Isaac, ensuite il y a Jacob, ensuite il y a les enfants d'Israël qui vont en Égypte par Joseph, le fils de Jacob. Donc ça vient beaucoup de siècles après, hein, pour comprendre que la parole de Dieu finit par s'accomplir. Il ne faut pas se décourager. Aujourd'hui, certains peuvent se moquer pour dire que la fin du monde, on en parle depuis longtemps, mais quand est-ce que ça arrivera? Ça arrivera. De même que là, on a dit qu'ils seront étrangers dans un pays éloigné, donc dans un pays étranger, pendant 400 ans. Je crois qu'ils ont dû attendre ça. Ils n'ont pas, beaucoup sont morts comme ça, sans avoir vécu ça. Mais ça s'est accompli à un moment. Ils ont été étrangers pendant 400 ans. C'est pourquoi quelqu'un comme Joseph a pu dire, le jour de sa, en s'approchant de sa mort, il a dit, quand moi je mourrai, je sais. Donc, Joseph avait les informations que leur période de demeure en Égypte avait une limite. Joseph donne les instructions. Quand vous quitterez l'Égypte, vous amenez mes ossements. Voilà les gens de foi. C'est-à-dire des gens qui ne regardent pas à leur petitesse, à leur faiblesse, mais qui regardent à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit que ça mettrait 400 ans. Mais moi, je suis en train de mourir. On n'a pas encore quitté l'Égypte. Mais il dit aux gens qui l'assistaient, sachez que Dieu vous sortira. Le jour où vous sortez d'Égypte, vous amenez mes ossements. Un homme de foi, jusqu'à la mort, il reste dans une relation de foi avec Dieu pour dire, ça s'accomplira la parole de Dieu. Peut-être que moi, je ne vois pas les choses venir, mais ça s'accomplira la parole de Dieu. Et il dit, vous prenez mes ossements. Et un autre homme de foi, le jour où ils doivent sortir de l'Égypte, il dit, je me souviens, Joseph avait demandé qu'on récupère ses ossements. On a récupéré les ossements de Joseph. Oui.
Pasteur, c'était pour savoir, parce que on a beaucoup entendu les enseignements sur les ossements de Joseph. Donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport à la foi et non par rapport à l'importance. Si quelqu'un meurt, il doit être enterré, conservé. Parce qu'il y a aussi des accidents, par exemple, on ne voit pas les corps de la personne, tout a été brûlé aussi.
Non, c'était par rapport au fait que Joseph voulait être enterré avec ses pères. Oui. Là où on a enterré ses pères, il voulait être enterré. Je ne sais pas si on va lire ça. Abraham va acheter une grotte où on va l'enterrer, les mamrés. Donc tous ils ont été enterrés là. Et Joseph voulait qu'on rapatrie ses ossements afin que de conserver cette lignée-là. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Donc lui, il voulait rester dans la ligne de Dieu. Donc même si lui, humain, il a vécu en Égypte, il dit que mes ossements rentrent à Canaan, dans la ligne de Dieu. Voilà. Ça, c'est extraordinaire de voir une telle foi où la personne, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont foi que par rapport à leur présent. Il veut vivre les choses dont il a foi. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis tout simplement, il faut aller plus loin. Il faut être prêt à mourir et à considérer que les choses qu'on attendait s'accompliront quand même. Il faut être prêt à... Il faut aller plus loin que ça. Même quand on désire voir les choses, c'est très bien. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Mais voir, ce n'est pas seulement sur terre. On peut voir aussi au ciel. Voilà. Donc on doit être prêt à mourir et à se dire, j'ai semé. L'arbre naîtra. Voilà. Ça, c'est important. C'est ça qui fait les vrais héros de la foi, les vrais disciples du Seigneur, qui vont rester fidèles jusqu'à la mort parce qu'ils ne voient pas la mort comme une fin. Alors que quand quelqu'un voit la mort comme une fin, il attend quelque chose de sa propre, de son vivant. Et à 60 ans, ça n'arrive toujours pas. Bon, il se dit, pourquoi pas un petit compromis? Parce que j'ai déjà 60 ans. Je risque de mourir là et je n'ai pas vu. Et il va chercher une doctrine qui justifie son compromis et il se colle à cette doctrine-là. Voilà. Parce qu'il se dit, moi je veux mourir, je n'ai pas vu ça. Mais oui, Joseph n'a pas vu ça, mais il a dit, mes ossements verront ça. Ramenez mes os auprès de mes pères. Donc c'est ça que, là où ont été enterrés mes pères, c'est ce que Moïse a exécuté. On voit la force de la parole de Dieu. Quand bien même tu es faible, tu es mourant, quand tu sors des paroles de Dieu, ça va s'accomplir parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Et là, on voit la prédiction de la captivité des enfants d'Israël. C'est pourquoi ceux qui critiquent la Bible sont vraiment des gens qui ne l'ont pas lue. Voilà, parce que quand tu lis la Bible, tu vois que quelque chose comme la captivité des enfants d'Israël en Égypte, elle est prédite des siècles avant. Non seulement cette captivité est prédite, mais sa durée aussi est prédite. Et que plus tard après, tu vois que ça s'accomplit. Tu dis, mais non, comment prédire des choses depuis des siècles, ainsi que leur durée? Ça ne peut que fortifier les enfants de Dieu de dire, nous avons vraiment le Dieu Tout-Puissant comme Dieu. Il connaît l'avenir, il maîtrise tout. Il a prédit non seulement la captivité, la durée et comment ça se passera à la sortie. Ça se passera, il a dit, ils sortiront avec beaucoup de richesses et de grandes richesses. Et c'est ça qui est écrit. C'est ça qui se vit plus tard. Donc c'était bien de passer par là, voir comment toute la Bible est reliée. Quand on lit la Bible, quand on explore la Bible, on se rend compte que tout est relié. Il n'y a aucun livre qui est isolé. Tous les livres sont en contact. Pourtant, c'est écrit par des gens différents et dans un écart de 1600 ans. Mais quand on lit chaque livre, on a l'impression que les gens qui ont écrit toute la Bible se connaissaient, mais non. C'est des gens la plupart ne se sont pas rencontrés et n'étaient même pas de la même époque. Mais c'est relié. On voit là, c'est clair, la captivité est prédite. Et quand on lira Exode, on verra comment ça se termine, comment ça se passe. Tout est relié dans la parole de Dieu. Nous continuons avec Genèse 17. Genèse 17. 9 à 13. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Voilà comment Dieu fixe son alliance avec Abraham. Qui fait partie du peuple d'Abraham? Celui qui est circoncis. Maintenant, notre frère Paul dit, mais pour expliquer à nos amis juifs que le salut n'est pas par ces actes-là. Il dit, mais quand Dieu a considéré Abraham juste, c'est dans Genèse 15. Il n'était pas du tout circoncis. Donc l'alliance avec la circoncision vient après. Donc le salut ne vient pas par cela, mais Dieu a voulu fixer des choses avec un peuple nouveau, le peuple d'Israël, avec son peuple, il a voulu fixer les choses par la circoncision. C'est ce qui explique que Moïse a failli être tué la nuit quand il allait en Égypte avec ses enfants parce que ses enfants à lui n'étaient pas circoncis. Donc le Seigneur avait donné une instruction à Abraham que Moïse ne vivait pas encore alors qu'il allait libérer les enfants d'Israël. C'est pourquoi la mort qui est, l'extermination qui est citée là, tout mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Au lieu d'appliquer ça sur les enfants de Moïse qui n'étaient que des enfants, Dieu lui-même a appliqué ça sur Moïse. Comprenons que par là, on prend les choses à l'avance, mais c'est une parenthèse, c'est que, comme il est écrit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, les vrais enfants de Dieu seront punis par Dieu directement. Il ne laissera pas Satan les toucher. C'est lui-même qui va les sanctionner, c'est lui-même qui va les frapper s'il le faut. parce que ce sont ses enfants. C'est pourquoi Dieu lui-même avait attaqué Moïse. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre venir attaquer son serviteur. C'est lui-même qui l'a attaqué. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand David a perdu son pouvoir par le coup d'état de son fils et que Shimei le suivait en chemin, David a dit aux gens qui voulaient tuer Shimei, il a dit, mais laissez-le, c'est Dieu qui permet que cet homme injurie. Donc David a considéré ce qu'il subissait comme une frappe de Dieu lui-même. Voilà, il a dit, c'est Dieu lui-même qui veut qu'on m'humilie, qu'on se moque de moi. Si Dieu veut ainsi, qu'est-ce que moi je peux faire à ça? Laissez cet homme tranquille. Voilà. Shimei a continué à injurier et à faire ce qu'il voulait. David a dit, c'est Dieu qui est en train de me sanctionner pour mes bêtises. Voilà. Donc là, c'est ce qui explique que Dieu avait attaqué Moïse la nuit parce qu'il y avait cet ordre-là qui n'était pas respecté. Et le Seigneur dit, répète encore à Abraham au verset 15, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Voilà, le Seigneur renouvelle encore sa promesse à Abraham. Oui.
Oui, c'est par rapport à l'intervention qui vient de précéder. Si on peut faire un petit parallèle avec le passage dans Exode chapitre 32, avec l'histoire du veau d'or.
Oui, oui.
Voilà, donc là, on voit bien que lorsque Moïse était parti pour recueillir les tables, Aaron avait accepté, disons, la proposition du peuple d'Israël. Et on avait vu après cela que Aaron, lui, n'était pas sanctionné. Donc, c'était les autres qui étaient sanctionnés. Alors que là, c'était, en l'absence de Moïse, c'était vraiment le leader. Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire... pas été inquiété du tout.
Lui, Aaron, mais quand vous lisez tous les textes, vous voyez que tous ceux qui ont fait ça ont été tués. Dieu a dit à chacun, non, il a dit à chacun de tuer les membres de sa famille. Donc, c'est-à-dire que parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, j'allais rallonger pour expliquer que c'est pourquoi dans une maison, Dieu veut que nous châtions nos enfants clairement, au lieu que ce soit les autres qui viennent le faire. J'allais rallonger parce que j'ai reçu un autre passage aujourd'hui dans la journée sur ce sujet-là, où Dieu, dans Nombre 25, voilà ce passage dans Nombre 25, où il demande aux gens eux-mêmes de massacrer les gens de leur famille pour le péché qu'ils ont commis. Donc c'est comme si chaque chef de tribu était... Donc il dit que chacun élimine ses frères qui ont fait le péché. Donc Aaron, en quelque sorte, est considéré par Dieu pour quelqu'un qui a cédé sur une pression. Mais quand on lit tout le texte, ce n'est pas Aaron qui est à l'initiative. Donc les gens sont venus le voir, allez, on fait ceci, on fait cela, et Aaron a cédé. Je prends les choses un peu comme ça.
Bon, je ne voudrais pas le condamner, mais je dis, à la limite, il aurait pu quand même s'y opposer, laisser les autres faire et rester à l'écart, à la limite.
Mais en tout cas, les gens ont été sanctionnés directement par Dieu.
D'accord.
Pas Aaron peut-être, mais bon, parce que lui quand même, il a subi une pression, il a cédé. Mais bon, plus tard on voit qu'Aaron aussi a raté la terre promise, tout ça, il a été sanctionné directement. Mais bon, y a un autre souci aussi, c'est que trouver un chef n'est pas facile pour Dieu. Donc Dieu ne va pas non plus comment facilement comme ça éliminer les chefs, c'est pas facile de trouver un remplaçant. Voilà, donc c'est pourquoi il va les sanctionner, mais d'une autre manière, parce que éliminer comme les autres ont été éliminés. Donc même quand David a péché, Dieu lui a proposé la maladie, la famine, voilà, ou alors perdre dans une guerre. Donc c'est ça n'a pas été vraiment son élimination directe, parce que trouver un chef, ce n'est pas facile. C'est un travail profond. Il y a aussi ça que je peux dire. Oui.
Oui, pasteur, par rapport à la circoncision, le Seigneur a fabriqué l'homme et la femme, pourquoi faire cet acte une fois que l'enfant naît?
C'était une alliance. C'était une alliance entre lui et son peuple.
D'accord.
Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de le faire. Nous ne sommes pas obligés de le faire.
Ah, voilà,
c'était
question.
Justement une alliance avant. Donc c'est bon. Peut-être que tu peux. Je me suis pas trop attardé là-dessus. L'apôtre Paul nous explique que puisque Abraham a été considéré juste avant la circoncision n'est pas nécessaire pour être sauvé.
D'accord.
Voilà. Donc, puisqu'il a été considéré juste avant la circoncision. Voilà. Donc, oui.
Lorsque Sarah a ri, Dieu a demandé à Abraham pourquoi Sarah avait ri lorsqu'il disait qu'elle allait enfanter. Et là, on voit que Abraham lui-même a ri. Et Dieu ne fait pas le reproche comme il le fait lorsqu'il s'agit de Sarah.
Dieu connaît les cœurs. Je vais te donner un exemple parallèle. Quand Marie, l'ange est venu lui dire qu'elle aura un enfant, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Voilà, puisque je ne connais pas d'homme. Et une interrogation. Et Zacharie a dit la même chose, mais comment cela se fait dire que moi je suis vieux? Mais Zacharie a été sanctionné et Marie non. Donc je pense que Dieu voit les intentions dans les questions, dans le questionnement de Marie. C'était, mais je suis attaché à un homme. Mais il ne va pas comprendre comment tu t'y prends. Marie cherche à savoir comment cela va se passer. Elle ne doute pas. Elle veut juste savoir comment ça va se passer. Alors que Zacharie, quand il dit, mais comment? Lui, son problème, c'est que je suis trop vieux, ce n'est pas possible. Donc, il est dans le doute. Et donc, Abraham arrive en disant, mais je suis vieux, c'est rigolo. Mais est-ce qu'il était dans le refus? Dieu a vu qu'il n'était pas dans le refus. Alors que Sarah a dû rire dans le sens, mais ce n'est pas possible. Voilà, c'est... Dieu connaît les cœurs, donc on peut parfois sortir à peu près les mêmes phrases, mais Dieu sait la profondeur, c'est quoi. Et donc nous allons au chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétri et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc on s'arrête là pour le moment. Donc, le texte qu'on vient de lire est aussi utilisé, donc on explore, est aussi utilisé par nos aînés pour parler du fait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est la même personne. Parce qu'il y a trois personnes qui viennent au Père d'Abraham et il nous dit, il est dit, il leva les yeux, verset 2, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Donc Abraham parle au singulier, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Donc il parle à une personne. Bon, quelqu'un peut dire, « Mais ils étaient à trois, mais ils parlaient à une personne. » Mais ils sont à trois, pourquoi va parler à une personne? Donc voilà. Et puis, ensuite, il change. Verset 4. Permettez. Il a commencé par le singulier. Il reprend. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent au pluriel. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla, donc il a fait ce qu'il a voulu faire. Et au verset 17, c'est écrit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Donc, ce passage, donc déjà là, au verset 2, c'est écrit, « Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. » Normalement, le Seigneur ne veut qu'on se prosterne que devant lui-même. Donc, qu'Abraham se prosterne devant ces gens, donc il les a mis au niveau de Dieu. Ensuite, il parle au singulier, après pluriel, et après, à la fin, on dit encore au singulier l'Éternel. Donc, nos prédécesseurs, nos aînés, ont considéré ça comme la préfiguration du Père, Fils, Saint-Esprit, qui finalement ne forme qu'une seule personne. Voilà. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve ça, cette préfiguration-là. Et ensuite, il promet au verset 13, c'est écrit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le Seigneur est choqué qu'on doute de lui. Donc le Seigneur est choqué que les gens doutent de lui. S'il y a quelque chose qui plaît vraiment à Dieu, c'est croire en lui. C'est écrit, Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. C'est vraiment une sorte de nourriture agréable à Dieu, la foi. Quand quelqu'un a foi, ça fait plaisir, ça fait vraiment, ça rend Dieu heureux, joyeux de voir qu'on croit en lui. Et là, il dit, mais pourquoi elle peut rire comme ça? Donc elle pense que moi je ne suis pas capable de faire ça. Donc le Seigneur, quand il nous voit parfois réagir, Il est choqué, il dit, mais comment, après avoir fait les cieux et la terre, après avoir fait tout ce que j'ai fait, même imaginer tout ce qu'il a fait pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, séparer la mer Rouge en deux, comment celui qui a fait les étoiles, la lune, tout ça, le soleil, jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas fini d'étudier la lumière, on n'en a pas fini d'étudier l'air. On continue à étudier, à découvrir des choses nouvelles dans le corps des hommes, dans les cellules, dans l'ADN. On découvre toujours des choses. Comment celui qui a fait tout ça, quand il te dit une chose, tu doutes? Ça lui fait mal. Il n'y a rien de plus choquant que manquer de foi. Lorsqu'on manque de foi vis-à-vis de Dieu, c'est ça qui le choque le plus. Il dit, mais comment il peut rire? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que quelque chose peut impressionner Dieu? Il n'y a rien qui puisse impressionner Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, en fait, Dieu veut juste une petite foi. Déjà, il faut commencer avec cette petite foi. En fait, c'est cette foi-là qui contredit l'intelligence humaine. Cette foi qui contredit la force de l'homme qui te dit, mais Dieu va faire ça, Dieu peut faire cela. Vous savez, il est dit de cette dame-là qui suivait Jésus, elle se disait en elle-même, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Voilà, donc elle était livrée à Jésus. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Donc il y avait une forte conscience que cet homme peut me guérir. Et ça passe par une contradiction avec son passé, une contradiction avec son intelligence, parce que cette femme-là avait consulté beaucoup de personnes. Elle est restée non guérie. Donc, il fallait affronter tout ce passé-là d'échec pour dire, il peut me guérir. Et nous, on a parfois à affronter beaucoup d'éléments visuels, dérangeants, pour dire, malgré tout, Dieu va faire. Voilà. Vous imaginez entrer dans la fosse aux lions, comme Daniel. Tu entres dans la fosse aux lions. C'est dire que tu te livres à Dieu. La foi, c'est ça, quoi. Finalement, la foi, c'est se livrer à Dieu. Oui.
Oui, dans ce passage-là, ce qui m'étonne, en fait, il y a plusieurs séquences. Tu l'expliquais tout à l'heure en parlant du singulier et du pluriel par rapport aux personnes. La première chose qui m'étonne et qui me marque, c'est que Abraham, il est tout seul, mais quand il voit les personnes arriver, c'est comme s'il avait tout de suite compris qui c'était, puisqu'on voit bien que ce sont des étrangers apparemment. Mais lui, c'est comme si lui, il sait déjà qui c'est. Et il court et il se prosterne. Donc l'objectif, il est clair en fait. Il sait déjà qui il a devant lui. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, souvent, bon, on se demande, ouais, mais Dieu va me parler comment, etc. Et effectivement, Abraham, il a la foi et il avait ce rapport-là particulier avec Dieu directement. Donc, il l'a reconnu tout de suite, malgré le fait qu'il soit à Troie. Et la deuxième séquence, c'est que dans un premier temps, on voit bien que c'est des personnes. Et c'est comme si en arrière-plan, les personnes disparaissent. Parce que c'est Dieu qui parle ensuite. Et il va même parler directement à Sarah. Donc, là, on ne nous parle plus que ce sont les personnes, une des personnes qui s'adresse à eux, mais c'est Dieu qui parle directement. Donc, les personnes se sont complètement effacées. Et c'est ce qui m'étonne, en fait, du fait que Sarah va répondre. En fait, elle ne va pas répondre. Je ne sais pas si elle répond à une des personnes, mais elle répond à Dieu directement, parce qu'on dit que le Seigneur lui dit « si tu as rigolé ». Et elle dit « non, je n'ai pas ri ». Mais on ne sait pas si elle parle à une voix ou si elle parle à ces personnes-là. Donc là, il y a une confusion, mais on voit bien que c'est comme une préfiguration du Saint-Esprit, quoi, puisque
Dieu est là, quoi. Voilà. Dieu est là. Mais je veux dire que oui, mais non, il ne faut pas faire comme si Abraham avait une relation privilégiée dont nous nous sommes privés, qu'il peut entendre Dieu directement. Moi, je reprends Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Nous, aujourd'hui, on veut que beaucoup d'entre nous disent, mais si moi aussi Dieu m'apparaissait comme ça, est-ce que moi je peux désobéir? Je vais obéir tout de suite. Je crois qu'on a la preuve que la même apparition a produit le respect auprès d'Abraham, mais Sarah a ri. C'est pour dire que même si aujourd'hui Dieu commence aussi à nous paraître comme ça, en puissance, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, je n'ai pas bien compris ». Il y aura toujours. Je pense que nous devions être dans le discernement. Souvent, je parle avec le pasteur David, c'est certain bien-aimé. Les exemples que je cite pour dire que Dieu m'a parlé, sincèrement, ça va paraître zéro pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, ils voudraient peut-être voir dans un songe Dieu venir. Mais moi, c'est des détails que je relis à la parole. Je dis là, Dieu veut telle chose. Là, Dieu veut. Parce que, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense qu'on doit être dans un état où on sait que Dieu va me parler, Dieu va me conduire. À partir de là, on entendra sa voix, on verra. Il le fait avec nous comme il l'a fait avec Abraham. Sauf que ce n'est pas aussi impressionnant. Mais ce n'est pas le côté impressionnant qui va faire qu'on obéisse ou qu'on suive. D'ailleurs, Zacharie est aussi une démonstration. Zacharie, vous vous imaginez, il a vu un ange, mais il a contesté quand même. Donc, c'est pas. C'est comme tu as dit quelque part, il avait une vraie relation avec Dieu. Il a détecté ça, c'est Dieu. Et il a, voilà, c'est cette relation-là de foi qui fait qu'il croit en ce qu'on lui dit. Il croit que c'est Dieu, il croit que c'est en ce qu'on lui dit. Mais ce n'est pas le côté impressionnant. Parce que côté impressionnant, Zacharie avait vu ça, mais ça n'a pas. Il a contesté quand même. Quand le Seigneur était baptisé, les gens ont vu la démonstration. Dieu a parlé du haut du ciel. Il a parlé. Il y a une colombe qui est descendue sur Jésus. Dans Jean 12, Dieu parle encore. Et les gens étaient là témoins. Ils ont entendu la voix parler à partir du ciel. Mais après, les gens oublient. Après, les gens relativisent. Mais quand quelqu'un est vraiment dans une relation profonde avec Dieu, même quand c'est des petits signes, il sait voir que Dieu lui a dit ceci, Dieu lui a dit cela. Et c'est à nous d'accepter vraiment d'entrer dans une vraie relation avec Dieu chaque jour, de marcher par lui, de s'attendre à lui pour tout. Et nous pourrons discerner à chaque fois quand il nous parle, afin qu'on ne loupe pas, qu'on ne tombe pas sous le... ce que Job dit dans 33-14, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. Il faut qu'on commence à veiller sur tout ce que Dieu utilise comme moyen pour nous parler et saisir et avancer. Et donc on disait, il n'y a rien d'étonnant par rapport à venant de Dieu. Dieu peut tout faire. Il faut qu'on croie en lui. Il faut qu'on croie qu'il peut tout faire. Surtout quand on demande quelque chose selon sa volonté. C'est pourquoi c'est écrit dans 1 Jean 5, 14 à 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Voilà, il y a encore, frère.
J'ai deux questions, en fait. J'ai une question par rapport au rire. Où ici dans ce chapitre, le rire de Sarah est associé un peu au manque de respect. Et par rapport au fait que Abraham a appelé son fils Isaac, il rit. Là, est-ce que c'est le rire d'Isaac ou est-ce que c'est le rire d'Abraham par rapport au fait qu'il est là, il se réjouit, il ne manque plus de respect? Il se réjouit d'être père et il voit la promesse s'accomplir.
Non, ça peut être le fait qu'il veut montrer que Dieu a vaincu le rire de Sarah. Donc il y a cette possibilité-là. On s'était moqué lors de la promesse, mais Dieu démontre sa grandeur. Il est capable de le faire. Donc le fait qu'on dise Isaac, il rit, donc ça va rappeler à chaque fois cette histoire-là que c'est un miracle vivant parce que l'homme s'était moqué quand Dieu avait parlé, mais Dieu a agi.
Et deuxième question, c'est par rapport à la suite de ce que dit Sarah. Une fois que l'enfant est né, il est écrit au chapitre 21, verset 6, c'est alors que Sarah dit « Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Et en fait, on a l'impression que malgré le miracle qu'elle a tant attendu pendant des années, elle continue à s'entêter face à Dieu, en fait.
Oui, donc elle n'est pas dans des dispositions à 100% dans la volonté de Dieu, d'accepter cette volonté-là. Maintenant qu'elle a l'enfant, elle se trouve vieille, quoi. Donc, il trouve que c'est pour dire que les gens, vraiment, la relation avec Dieu ne dépend pas des biens, ne dépend pas des bénédictions. Il y a des gens, ils peuvent tout avoir, ils parleront toujours. Ils trouveront toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des gens qui manquent de tout, mais qui sont contents. Qui trouvent que Dieu les bénit, ils sont heureux. Donc c'est vraiment quelque chose de profond. C'est quand tu comprends qui est Dieu, tu te mets en relation avec lui, ça te suffit, quoi. Comme nous chantons, « Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. » Donc pour les vrais chrétiens, juste que Jésus l'aime, ça suffit. Hein? Moi, j'aime mon ami David, donc il est chassé du pouvoir, il dit, « Ah, puisque Dieu veut les choses comme ça, ça me suffit que ça soit la volonté de Dieu, qu'on me malmène. Du moment que je pense que c'est Dieu qui me met dans ça, bon, allez, on prend. C'est vraiment une relation profonde avec son Dieu, quoi. Donc, il prend tout ce qui vient de Dieu. C'est cela. Mais parfois, on dit, ah, mais c'est parce que Dieu ne donne. Parce que si Dieu donne, peut-être que la personne va se convertir. Peut-être que la personne va changer. Non, il y a des gens, on va tout leur donner. Ils diront toujours qu'il manque quelque chose encore. C'est pas ça qui... C'est vraiment quelque chose de cœur. Quand Dieu ouvre les yeux, on se rend compte qui il est, on se dit, ah, j'entre en relation avec lui. Oui.
Oui, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais du fait que quand Dieu parfois parle à des moments, enfin sur des points parfois qui sont insignifiants, et pour certains et pas pour d'autres. Là, quand Dieu apparaît à Abraham, on voit que c'est aussi un moment qui est un peu improbable parce que c'est un moment où il fait très chaud et il est devant sa tente. On ne s'attend pas à ce que Dieu peut-être va se révéler à lui à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là justement qu'il se révèle à lui, quoi. Ce n'est pas un moment où il dormait, où on peut dire que c'est un songe. Mais là, vraiment, c'est un moment improbable. C'est un moment vraiment où il faisait très chaud.
Oui, 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 oui. Dans la journée, nous, on pense qu'il faut être seulement... Ça sera pendant que tu intercèdes, il va y avoir quelque chose, un mouvement. Tu cherches le mouvement dans ton corps, ça ne vient pas, tu continues à prier. Et comme ce frère-là, il a entendu un petit souffle de vent, il s'est dit, ah, c'est le Saint-Esprit, alors que c'était la fenêtre qui venait de s'ouvrir. Donc, on veut à tout prix que pendant le feu de l'action, pendant que tu pries, que tu sentes quelque chose. Or, Dieu va, il fait ce qu'il veut. Il peut le faire pendant ce moment-là, il peut le faire dans un moment, comme tu dis, improbable. Oui.
Oui, moi, je voulais... de Genèse 18, 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Faire le parallèle avec quand l'ange est apparu à Élisabeth dans Luc 1, 37, là, et qu'il est écrit car rien n'est impossible à Dieu. Alors, oui, que c'est vraiment une histoire de foi, mais c'est vrai aussi que je me dis, comme dit la parole aussi, quand le Seigneur dit quelque chose, ça s'accomplit, quoi. Vraiment, le lien là, en tout cas dans ces...
Tu peux approcher le micro.
Oui, le lien dans ces deux situations là, c'est vraiment une histoire de foi et de la parole. Dieu a parlé, donc
ça va s'accomplir. Et là même, on voit qu'elle a ri, mais ça s'accomplit quand même. Ouais. Voilà, parce que c'est vraiment la décision de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est le fruit parce que j'ai beaucoup prié. Non, Dieu avait décidé de donner un enfant à Abraham. Il avait dit dans Genèse 15. Et donc, malgré le fait que tu ris quand même, ben, tu y as quand même. C'est ce qui explique, bien-aimé, parce que beaucoup de gens se targuent de bénédictions qu'ils reçoivent pour dire « Dieu est avec moi ». Mais il y a des choses qu'on reçoit parce que c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas parce que nous, on a été bons, gentils, purs, tout ce qu'on veut. C'est parce que Dieu est bon, il nous donne des choses. Et on en a déjà parlé une fois. Et c'est l'erreur qui est commise par beaucoup qui au regard de ce qu'ils ont comme salaire, comme bénédiction, ils ont un enfant, ils se sont mariés, ils ont ceci, ils se disent, mais Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. Ah non, pas du tout. Dieu n'était pas d'accord avec Sarah, mais il lui a donné quand même l'enfant. Donc, parce que c'était sa décision. Donc, Dieu, je ne vois pas aucun d'entre nous ici qui, parce qu'il n'est pas d'accord avec son enfant dans quelque chose, il lui priverait de nourriture, ni de vêtements, ni payer les frais scolaires. On va quand même payer, on va le nourrir, on va voilà. Mais le point de désaccord, si ça continue, un jour cet enfant payera de cela, parce qu'il va négliger telle chose, il va négliger, et il en payera les frais plus tard. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que certaines choses vont dans notre vie que nous devons considérer que tout ce que nous faisons est considéré comme bien par Dieu. Voilà.
Donc, on dit que Dieu donne quand il a décidé de donner. C'est parce que lui, il a décidé que toi, tu auras quelque chose, donc il va le donner quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses.
Je n'ai pas dit quoi que tu fasses. Hein.
Ah, c'est ça que je voulais
J'ai dit
savoir.
Que, voilà, il a décidé de donner, il le fait. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut supposer qu'il aurait pu ne pas donner parce qu'on a une mauvaise attitude ? Parce que Sarah a une mauvaise attitude, mais il a quand même donné. Mais c'est juste parce qu'il a fait la promesse, ou est-ce que le fait d'avoir une mauvaise, enfin, il n'y a pas.
Ah de non, c'est parce finalement. Qu'il, parce que ça vient de lui. C'est lui qui a promis qu'elle aura un enfant. Et ce n'est pas lié à l'obéissance de Sarah.
Oui, donc c'est ce qu'on dit. Comme lui, Dieu avait dit qu'ils auraient un enfant, il va quand même le donner, quelle que soit l'attitude.
Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire comme toi, mais je dis seulement les faits tels qu'ils sont là. Malgré son attitude de moquerie, le Seigneur a donné quand même un enfant parce que c'est sa propre décision. Il avait dit qu'Abraham va avoir une descendance. Et il y a aussi des choses, bien-aimées, qui ne sont pas liées qu'à nous. Par exemple, comme on vient d'expliquer là, donc Dieu peut te donner beaucoup d'argent. C'est parce qu'il veut que tu donnes à d'autres personnes. Et il sait que s'il leur donne à eux-mêmes directement, il y aura des conséquences mauvaises. Donc, il préfère passer par toi pour qu'il gère beaucoup de situations en même temps, Dieu. Donc, on ne peut pas gérer, on ne peut pas dire aujourd'hui, parce que Dieu m'a donné, donc je suis en accord avec lui. Non, on est en accord par rapport, si on vérifie notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Ça ne doit être jamais lié par rapport à ce que nous recevons. Dieu peut nous donner des choses parce qu'il veut qu'on donne à d'autres personnes.
Oui, en fait, c'est ça que je me disais. Je me disais que Dieu, parfois, il nous utilise juste parce qu'il veut... accomplir quelque
accomplir
chose.
Sa parole, voilà, accomplir un projet.
C'est pas à cause de nous, c'est parce qu'il a
voilà.
Il voudrait faire quelque chose.
Et voilà. Et donc, ça serait souvent, on se trompe en se disant, bon, si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Ah non, il peut t'utiliser, c'est tout. Mais pour savoir si on est en accord avec Dieu, c'est par rapport à la parole. C'est pas par rapport à ce que nous avons comme bénédiction, comme chose qui tombe du ciel. Non, c'est par rapport à la parole. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? C'est comme ça qu'on peut savoir si on est en accord avec lui. Et donc, le Seigneur veut nous encourager à avoir foi en lui. Donc, il ne faut pas rire de la parole de Dieu. Donc, et on peut rire de la parole de Dieu par notre négligence à prier selon la parole. C'est-à-dire que tu pries que par rapport à ce que ton intelligence peut concevoir, que Dieu peut te donner, au lieu de prier par rapport à ce que dit la parole que Dieu peut te donner. C'est pourquoi Sarah a fini par prendre une autre femme pour son mari, parce qu'elle ne concevait pas que Dieu puisse donner par elle-même. Donc c'est ça qui arrive à beaucoup de personnes. Ils finissent par sortir de la volonté de Dieu parce qu'ils prient en fonction de ce que leur intelligence leur donne comme possibilité. Or, il est écrit dans Éphésiens 3:20, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons même. Et imaginons, vous savez que l'imagination d'un homme, c'est débordant, hein? Mais Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Donc, c'est vraiment, on peut lui faire confiance, surtout quand lui-même a dit des choses, on peut lui faire confiance. Mais, c'est des choses parfois qui sont des dimensions universelles, mondiales, nationales, et dont la réalisation peut parfois demander du temps parce que les paramètres ne sont pas des paramètres. C'est pas comme si Dieu sortait un diamant comme ça. Non, c'est des choses qui impliquent beaucoup d'individus, les choses extraordinaires qu'on peut vouloir. Ça implique beaucoup de monde. Ça implique les âmes. Or, l'âme d'une personne est très importante aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas faire quelque chose sachant qu'une âme ira en enfer. Donc, Dieu veut faire vraiment les choses de sorte que ce qu'il fait apporte que la bénédiction éternelle. Donc, il y a tous ces paramètres qui peuvent donner l'impression que ça traîne. Mais ça ne traîne pas parce que Dieu est incapable. Ça traîne parce qu'il y a des paramètres qui sont liés à la vie des âmes, à la vie des humains, à des hommes aussi. Et ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que Dieu ne puisse faire? Donc il n'y a rien, il peut tout faire. Mais maintenant, ces impressions-là qu'on peut avoir, comme quoi, ça peut traîner, c'est qu'il y a des paramètres relatifs à la vie de l'âme. La vie de l'âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu veut tout faire pour que l'âme soit sauvée toujours. Donc il faut qu'on comprenne cela. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance. Dieu est tout puissant, comme les Écritures le disent. Mais si ça fait 10 ans, 5 ans qu'on demande quelque chose, on ne l'a pas encore, ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Il y a d'autres paramètres. Voilà. C'est pourquoi il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant que Dieu ne puisse faire? Dieu peut tout faire. Voilà. Maintenant, il y a des paramètres et parfois, nous devons prier pour que Dieu nous éclaire par rapport à ces paramètres-là pour lorsque nous trouvons que ce que nous demandons traîne. Voilà, nous allons prier que le Seigneur restaure notre foi, que nous croyons qu'il peut tout faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu restaures notre foi. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que Sarah parce qu'il faut dire qu'elle avait quand même 80 ans et on ne sait pas si à sa place on aurait cru. Et c'est pourquoi nous te demandons ton aide, Seigneur, et nous prions que tu nous donnes la vision claire et nette de ta puissance, que nous croyons en ce qui est écrit, que nous soyons comme des enfants qui, juste en prenant les brochures de pub, croient que leurs parents peuvent leur acheter ce qu'il y a dedans, Seigneur. Merci de nous donner cette nature-là d'enfant, que nous puissions croire bêtement ce qui est écrit afin d'expérimenter ta grande puissance, car tu es Dieu. Si tu as fait les cieux et la terre, pourquoi te mettrions-nous en doute, Seigneur, pour certains éléments simples que nous demandons, mais qui paraissent grands à nos yeux? Oh Seigneur, aide-nous à regarder à ta puissance et à faire des prières conformes à ta puissance, des prières conformes à ce qui est écrit, parce que nous ne pouvons pas savoir ce que tu peux faire totalement, parce qu'il est dit que tu fais au-delà de ce que nous pensons ni imaginons, Seigneur. Donc tu fais au-delà, donc tu es plus haut même que notre imagination, et nous n'avons que ta parole comme repère, comme moyen de savoir ce que tu peux faire, et aide-nous à chaque fois à prier en fonction de ta parole et non en fonction de notre limitation intellectuelle. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.